Donc nous recevons aujourd'hui Monsieur le professeur Jeffrey Krosik, qui nous fait le grand honneur de venir de Grande-Bretagne pour nous parler de l'histoire sociale, et c'est pourquoi nous le remercions infiniment. Jeffrey Krosik est professeur d'histoire à l'Université d'Essex et vice-président de cette même université. Il est né en 1946, il est diplômé de Cambridge, et spécialiste de l'histoire de la société anglaise et européenne au 19e et au 20e siècle, et plus particulièrement de la petite bourgeoisie, de la société urbaine, de l'histoire de Londres et d'histoire comparative. Donc il est l'auteur de nombreux ouvrages en langue anglaise, j'en citerai trois. An Artisan Elite in Victorian Society, Kentish London, 1814-1880, publié chez London Crumhill en 1978. Alors je signale que c'est sa thèse et qu'elle a été dirigée par Eric Hobsbawm. Donc en français ça donne l'élite artisanale dans la société victorienne au sud-est de Londres, 1840-1880. Il a publié également The Petite Bourgeoisie in Europe, 1780-1914, Enterprise, Family and Independence, donc en collaboration, cet ouvrage, publié chez Routledge à Londres en 1995. En français, ça donne La Petite Bourgeoisie en Europe, 1780-1914, Entreprise, Famille et Indépendance. Et j'en citerai un dernier, Cathedrals of Consumption, The Department Store in European Society, 1815-1940, qui est un ouvrage donc publié sous sa direction en 1999. Malheureusement, ils n'ont pas été traduits en français.
Merci. Qu'est-ce que l'histoire sociale? Quand a-t-on commencé à étudier l'histoire sociale? Seule une approche centrée sur la formation professionnelle permettrait d'apporter une réponse à cette question en termes de moment institutionnel. Ainsi, ceux qui recherchent le point de départ de l'histoire sociale française doivent certes regarder plus loin que la fondation des annales d'histoire économique et sociale en 1929 et s'intéresser à ceux qui écrivirent sur le peuple dans le passé, Guizot, Michelet, Fustel. Michelet était conscient de la nouveauté de son histoire de France, publiée à partir de 1833. Je cite, « Ici encore, je suis obligé de le dire, j'étais seul. On ne donnait guère que l'histoire politique, les actes de gouvernement, quelque peu des institutions. On ne tenait nul compte de ce qui accompagne, explique, fonde en partie cette histoire politique, les circonstances sociales, économiques, industrielles, celles de la littérature et de l'idée. » Fin de citation. De même, ceux qui font remonter la fondation de l'histoire sociale en Grande-Bretagne au développement de l'histoire sociale et économique dans les universités au début du XXe siècle devraient lire la History of England de Macaulay, rédigée dans les années 1850, dans un chapitre dense sur l'état de l'Angleterre en 1685. Macaulay abordait les sujets qui devait devenir la matière même de l'histoire sociale un siècle plus tard. Démographie, agriculture, groupes sociaux, urbanisation, haute société, lecture, communication, salaire, et il consacrait même un passage à l'influence de la littérature française sur les écrivains anglais. Chose, mon auditoire sera heureux de l'apprendre, qu'il jugeait positive. Les spécialistes de l'histoire sociale exagèrent la nouveauté de leur propre profession lorsqu'ils s'avèrent incapables de voir qu'elle puise ses racines dans une tradition intellectuelle plus vaste. L'histoire de l'histoire sociale, si vous me permettez ce mot, est une histoire longue. Cependant, ce fut au cours des premières décennies du XXe siècle que l'histoire sociale commença à connaître un essor dans le monde universitaire. Elle se trouva étroitement associée à une autre toute jeune discipline, l'histoire économique. Elle se présentait alors comme une discipline oppositionnelle. Oppositionnelle parce qu'elle remplaçait l'étude des monarques et des hommes politiques par celle des gens ordinaires. L'étude des événements par celle des processus et de la longue durée. Ces liens avec l'histoire économique furent importants car ces deux disciplines se développèrent en très étroite relation dans l'entre-deux-guerres, avant de se séparer l'une de l'autre. En France, ce fut l'accent mis par les historiens des annales sur les processus de longue durée, sur l'analyse des structures dans le temps, qui fit de l'analyse économique un subassement nécessaire des processus de changement social. En Grande-Bretagne, d'autre part, les liens entre histoire sociale et histoire économique procédèrent d'une démarche différente. Réforme sociale et économie politique, ainsi que la forte présence des femmes, qui jouèrent un rôle majeur dans l'évolution de l'histoire économique en Grande-Bretagne. Elles contribuèrent au rapprochement entre questions de politique sociale et histoire économique. En une époque de mouvements pacifistes et d'internationalisme, Eileen Power, professeure d'histoire économique à la London School of Economics, défendit la généralisation de l'enseignement de l'histoire sociale, qui, affirmait-elle, mettait davantage l'accent sur la similitude entre les nations que ne le faisait l'histoire politique. Les liens étroits entre histoire économique et histoire sociale et les pertes qui ont découlé de la divergence sont un sujet sur lequel je reviendrai. Dans cette intervention, je m'intéresserai à l'histoire contemporaine que je connais mieux, et même s'il m'arrive de m'interroger sur l'expérience d'autres pays européens, je parlerai spécialement de l'histoire sociale en France et en Grande-Bretagne. L'âge d'or de l'histoire sociale en tant que discipline fut indéniablement les années 1960 et 1970. Comment expliquer cet essor soudain à cette époque particulière? Le développement des universités et la différenciation des disciplines. La confiance accordée aux sciences sociales, qui allait de pair avec l'enthousiasme moderniste. Une génération pour qui il semblait important de rejeter l'histoire traditionnaliste. L'accent mis en 1968 sur l'histoire de ceux qui avaient été longtemps ignorés, les femmes, les ouvriers, les pauvres. Cet ensemble disparate de forces produisit une histoire sociale elle-même hétérogène, ainsi qu'une confusion quant à la définition de la discipline et aux méthodologies à employer. L'histoire sociale conserva son caractère oppositionnel. Nulle part cela ne fut plus vrai qu'en Italie, où les anciens paradigmes historicistes, de droite comme de gauche, subordonnèrent les phénomènes sociaux aux analyses centrées sur la politique de l'État. La persistance de ces traditions fit que l'Italie découvrit l'histoire sociale plus tard que bien d'autres pays. En Europe, ce qui porta l'histoire sociale de l'avant, ce fut tout autant l'enthousiasme pour ce qu'elle n'était pas qu'une conception claire de ce qu'elle était. J'aimerais souligner quatre aspects majeurs de cette discipline dans les années où elle sembla devoir tout emporter avec elle. Le premier de ces aspects était un engagement aux côtés de ces gens que les historiens avaient depuis longtemps négligés, les ouvriers dans un premier temps et ensuite les femmes. À partir des années 1960, ce fut avant tout l'histoire de la classe ouvrière qui devint le terreau de la nouvelle histoire sociale en Grande-Bretagne et en France. Le travail le plus stimulant réorienta l'étude de la classe ouvrière des syndicats et des partis politiques vers une préoccupation pour les ouvriers eux-mêmes, leurs relations sociales et leur culture. Un groupe éclectique d'historiens marxistes jouèrent un rôle particulier dans l'évolution de l'histoire de la classe ouvrière en Grande-Bretagne et posèrent les bases d'une nouvelle espèce d'histoire sociale. Deux noms se détachent ici, ceux de Edward Thompson et de Eric Hobsbawm. The Making of the English Working Class du premier est un ouvrage novateur sur lequel je reviendrai. Cependant, l'importance de Laboring Men de Eric Hobsbawm, publié en 1964, a été sous-estimée par ceux, en particulier hors de Grande-Bretagne, qui associent avant tout cet auteur à la grande série d'études sur l'émergence du monde moderne qu'il a inauguré avec l'ère des révolutions et achevé avec l'ère des extrêmes. Laboring Men était différent. Dans un recueil d'essais novateurs, Hobsbawm sondait certains des modèles de l'évolution de la classe ouvrière, avant tout ceux qui voyaient en cette classe une simple fonction du changement économique. À la différence du texte plus tentaculaire de Thompson, les études de Hobsbawm sur la classe ouvrière étaient précises, ciblées et étroitement liées à l'analyse économique. Nulle part l'histoire sociale ne s'enracina aussi profondément dans l'étude de la classe ouvrière qu'en Grande-Bretagne à cette époque. Mais on peut observer un processus similaire en France, en Italie et aux Pays-Bas. Deuxièmement, pendant cette rapide expansion dans les années 1960 et 1970, faire de l'histoire sociale pouvait également signifier étudier ces aspects de la vie des gens que l'on avait longtemps ignorés. Cela impliquait de se détourner de la politique pour s'intéresser à ce qui faisait la texture et les pratiques de la vie quotidienne. Il s'agissait non pas d'une théorisation des aspects négligés de l'expérience quotidienne, mais d'une priorité accordée à ces aspects de la vie des gens que l'histoire écrite existante avait traité de manière trop superficielle. Ainsi, la famille, l'enfance et la jeunesse, la criminalité et les loisirs, la sexualité et la consommation, la boisson et le sport. Il s'agissait là d'une histoire sociale explicitement conçue de la base vers le sommet. Et pour beaucoup d'historiens, cette récupération des vies ordinaires du passé représentait un acte d'engagement politique. Dans une troisième dimension, l'histoire sociale était l'analyse des structures des sociétés passées. Et elles s'enracinaient non pas dans le romantisme qui caractérisait souvent ces autres courants de l'histoire sociale compensatoire, mais dans une impulsion moderniste qui était fréquemment associée aux sciences sociales. En France, la tradition des annales et l'impact des sciences sociales encourageaient ces projets à grande échelle de collecte et d'analyse des données, qui firent l'objet du célèbre débat de Saint-Cloud en 1965. Ainsi que le déclara Ennis Labrousse dans son introduction à ce colloque, je cite, « Une nouvelle histoire sociale commence, en liaison avec une histoire économique rénovée et une sociologie en plein essor. » Fin de citation. Les années 1950 et 60 virent le développement des paradigmes marxistes et labroussiens. L'accent fut mis sur les groupes sociaux et leur composition et leur comportement furent perçus comme étant définis par les conditions matérielles. Vois l'exemple des études de la bourgeoisie et ensuite la distribution de la richesse, qui suivirent la thèse d'Adeline Domar sur la bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, et où la bourgeoisie est considérée comme une donnée et sa structure interne définie par la distribution et la fortune. Le groupe social et sa place dans la structure sociale devinrent les préoccupations centrales de l'histoire sociale. Et dans ce projet moderniste, l'histoire sociale s'intéressait aux structures et à l'analyse globale plutôt qu'aux expériences individuelles. Dans ses propos liminaires à Saint-Cloud, Labrousse citait le mot provocateur de Lucien Febvre. Pas l'homme, encore une fois, jamais l'homme. Les sociétés humaines, les groupes organisés, voilà l'objet de l'histoire. La Grande-Bretagne connut une espèce assez différente d'histoire sociale à la même époque, une histoire moins soucieuse de structure et de quantification que d'expérience et d'identité. La réalité du groupe social devait apparaître non pas dans des tableaux statistiques, mais dans les comportements et les actes. Yves Lequin a regretté la faiblesse d'une histoire sociale française, soucieuse de quantification et de grande structure, alors qu'il y avait beaucoup à apprendre de l'analyse des relations sociales telles qu'elles se pratiquaient de l'autre côté de la Manche. Je cite, « Les recherches françaises se sont développées notamment à l'écart d'une historiographie anglo-saxonne d'une grande inventivité et qui s'est appliquée à poser les mêmes questions en des termes tout à fait différents. » Fin de citation. Je dirais que nous, anglo-saxons, avons beaucoup souffert du manque de cette sorte d'analyse structurale, qui demeura chose exceptionnelle dans une historiographie réticente à l'égard des sciences sociales et de la quantification. Mais le point essentiel est que l'historiographie s'est appliquée à poser les mêmes questions. En Grande-Bretagne comme en France, l'histoire sociale dans les années 1960 et 70 trouva dans les groupes sociaux ces catégories organisatrices. En Grande-Bretagne, l'empirisme aurait pu laisser croire que la collecte de données deviendrait un élément central de l'histoire sociale. Un impératif humaniste et populiste orienta les choses dans d'autres directions. La formation des classes et les relations de classe façonnèrent cette histoire sociale, intéressés par les changements à grande échelle. La figure qui domine est celle d'Edward Thompson, qui fit plus pour définir de nouvelles approches de l'histoire sociale britannique entre les années 1960 et 1980 que tout autre individu. Et dans The Making of the English Working Class, la formation de la classe ouvrière anglaise, fut l'ouvrage d'histoire sociale britannique le plus influent de son temps. Ce livre fut publié en 1963, le lendemain de l'assassinat de John F. Kennedy. Il en est tenté de demander combien de gens savent où ils étaient quand ils entendirent parler pour la première fois de l'immense ouvrage de Thompson. Je me rappelle fort bien le début de mes études à Cambridge l'année suivante et ma lecture passionnée de ce coûteux volume à la couverture jaune que se passait de main en main ce que la perspective d'une histoire sociale enthousiasmait. L'originalité de Thompson résidait dans sa présentation du concept de classe comme phénomène qui émergeait non de structure, mais des éléments que Thompson plaçait au cœur de processus historiques. Action, lutte, expérience et conscience. Thompson était un historien marxiste pour qui les transformations liées à l'industrialisation capitaliste étaient le cadre essentiel de la formation de classe. Mais il évitait l'analyse structurelle et préférait mettre en évidence les détails des expériences individuelles et des événements spécifiques. L'accent porté sur la façon dont la liberté d'action agissait sur l'expérience pour développer la dynamique de conscience, ce qui, selon Thompson, était le sens même de la notion de classe. L'influence de Thompson fut immense. Sur son aspect le plus positif, elle conduisait les historiens à considérer la classe comme quelque chose qui ne découlait pas simplement d'un changement économique, qui n'existait pas à la manière de strates hiérarchiques dans un ensemble statique, mais qui était faite de l'étoffe changeante des relations sociales, étoffe que les ouvriers eux-mêmes contribuaient largement à tisser. La classe ouvrière, écrivait-il, n'est pas apparue comme le soleil à un moment donné. Elle a été partie prenante de sa propre formation. Fin de citation. L'influence de Thompson encouragea une multitude d'explorations de la culture de la classe ouvrière et une mise en évidence implicite de la fragmentation de l'expérience et de la classe ouvrière qui ne devait devenir explicite que lorsque l'analyse de classe passerait elle-même de mode. The Making of the English Working Class peut être considéré comme le grand ouvrage d'histoire sociale marxiste qui sapa les fondations d'une histoire sociale portant sur l'analyse structurelle de classe. Pourquoi a-t-il fallu attendre 25 ans pour voir paraître en France la traduction de The Making of the English Working Class? J'ai placé les recherches sur la structure sociale des historiens français dans la même catégorie que celle sur la classe ouvrière des historiens anglais, car ils travaillaient tous dans le cadre d'une histoire sociale moderniste, centrée sur l'analyse des processus sociaux de grande échelle et portant essentiellement sur l'analyse des groupes sociaux, de leur composition et de leur action. Cependant, il y avait aussi des différences fondamentales qui illustrent la proximité dans le temps du livre de Thompson publié en 1963 et du colloque de Saint-Cloud deux ans plus tard. Jacques Revel a parlé de la résistible carrière en France du livre, dont, selon lui, la réception retardée peut ici prendre valeur de symptôme. Jusqu'à présent, j'ai décrit trois dimensions de l'histoire sociale dans les années 1960 et 70, son âge d'or. L'étude des groupes négligés, l'étude d'aspects jusqu'alors cachés de la vie des gens et l'analyse des structures des sociétés passées. Cependant, l'histoire sociale avait une quatrième dimension, la plus ambitieuse de toutes. Concevoir une histoire totale en passant de l'histoire sociale à l'histoire de la société. L'histoire sociale, soutenait beaucoup de spécialistes, pouvait unifier une discipline qui semblait perdre inexorablement tout sens de la totalité. Dans la préface qu'il écrivit en 1983 pour sa Social History of England, Asa Briggs proclama: pour moi, comme pour une nouvelle génération de chercheurs en histoire sociale, l'histoire sociale est l'histoire de la société. Elle s'intéresse aux structures et aux processus de changement. Rien de lui est étranger. Fin de citation. La question intéressante est de savoir pourquoi ce fut l'histoire sociale qui fut reconnue alors comme la force susceptible de créer l'unité, là où régnait la fragmentation. Il est probable que l'une des explications ait été le statut scientifique de la sociologie, surtout peut-être en France et en Allemagne, et une autre l'importance du marxisme. Quelle qu'ait été la raison, l'histoire sociale devint alors, pour beaucoup de personnes, non plus une simple sous-spécialité, mais l'histoire totale. Pendant les années 1960 et 80, cette histoire sociale plus ambitieuse s'efforça d'organiser ses intérêts pour la structure sociale, les classes, les mouvements sociaux, les structures de la richesse et de l'inégalité, le pouvoir, l'idéologie et la culture. Les sujets qui avaient constitué le noyau d'une discipline toujours menacée par ses propres impulsions centrifuges. Les années 1960 et 70 furent pour celui qui s'intéressait à l'histoire sociale une période enivrante. Il se peut que ceux qui se trouvaient engagés dans cette entreprise n'aient pas su clairement comment se définissait la discipline, mais ils savaient que c'était le projet historique le plus passionnant du moment et chercheurs afflués. Ce faisant, ils s'écartaient toujours plus de l'histoire économique. Ils s'écartaient toujours plus de l'histoire économique avec laquelle ils avaient de moins en moins de capacité de dialogue. À l'époque même où l'histoire sociale s'associait de manière éclectique à d'autres disciplines. L'histoire sociale a toujours été associée à d'autres disciplines qui ont été à la source d'une large part de sa créativité. Quoique cela ait été plus systématiquement recherché en France dès les origines des annales, et en Allemagne, où la théorie de la modernisation a eu une très grande influence, qu'en Grande-Bretagne. La sociologie et la géographie au départ, puis de manière croissante l'anthropologie, l'ethnographie et la linguistique, qui répondaient mieux au changement d'objet de l'histoire sociale. Le déplacement d'accent de la sociologie à l'anthropologie, comme science sociale plus séduisante pour l'histoire sociale, illustre clairement le caractère changeant du sujet, qui passait de la macro-analyse à la micro-analyse, de la structure sociale à la culture. L'anthropologie aida les historiens à célébrer l'altérité et la spécificité du passé. Des interactions significatives ont souvent joué en sens contraire avec l'arrivée de spécialistes d'autres disciplines dans la recherche en histoire sociale. Je songe aux travaux aussi divers que ceux du sociologue américain Charles Tilly, sur les mouvements de protestation populaire en Europe, ceux du philosophe français Jacques Rancière sur le discours ouvrier en France, ou ceux du sociologue anglais Michael Anderson sur la famille en Grande-Bretagne industrielle. Si ce contact éclectique avec les sciences sociales est une des raisons de la tendance centrifuge de l'histoire sociale, c'est aussi une raison de sa richesse et de sa vitalité. La comparaison avec l'histoire économique est frappante. L'histoire économique changeait, se divisant en domaines d'intérêt toujours plus distincts avec d'une part l'histoire des entreprises, d'autre part une histoire économétrique soucieuse d'application de la théorie économique et de modélisation économique. Un changement plus rapide en Grande-Bretagne qu'en France. Ni l'histoire des entreprises, ni la modélisation économétrique n'ont fourni ce terrain favorable aux échanges que l'ancienne histoire économique plus littéraire avait offert. Cela a eu pour effet d'accroître l'écart entre les deux champs au détriment de l'histoire sociale. Les spécialistes de l'histoire économique devraient mesurer les pertes pour leur propre discipline. En Grande-Bretagne, l'exemple récent le plus frappant de ce divorce est le débat sur l'industrialisation qui s'est fait jour depuis la publication de l'analyse de Nick Crafts des taux de croissance pour l'économie britannique au 18e et 19e siècle. Les données statistiques que Crafts a élaborées ont nivelé le rythme de l'industrialisation en Grande-Bretagne. Il est apparu que l'industrialisation britannique commençait à connaître un processus long et très lent, avec peu de conséquences marquantes. En réaction, deux historiennes, Berg et Hudson en particulier, dressaient un tableau plus vaste de l'histoire économique qui semblait avoir été perdu. Il remettait en question une approche déculant entièrement de données portant sur le produit national macroéconomique et les mesures de la croissance et soutenait que la révolution industrielle ne se résumait pas à cela. Elle soulignait l'importance des autres facteurs, dont le changement technologique, l'emploi du main-d'œuvre de femmes et d'enfants, la spécialisation régionale et le comportement démographique. Pour eux, le problème résidait dans l'étroitesse de l'argument économique, qui cherchait à présenter une vision nouvelle du changement économique et ensuite social. Est-ce une coïncidence si Maxine Berg est le biographe d'Eileen Power, professeur d'histoire économique dans les années 1930, dont la vision fut fondamentale à l'évolution de l'histoire sociale en Grande-Bretagne? Si les années 1960 et 70 peuvent sembler un âge d'or incohérent mais passionnant pour l'histoire sociale, les 20 dernières années ont vu le projet même de l'histoire sociale se désintégrer. Une critique s'est rapidement fait jour, soulignant ce qui semblait manquer au tableau historique dressé par l'histoire sociale dans sa phase de plus grande confiance. On l'accusa d'avoir ignoré l'importance de diverses réalités vécues. Et on construisit alors une histoire partant du bas qui mettait l'accent sur la vie quotidienne ordinaire. Citons ici le mouvement de History Workshop en Grande-Bretagne qui eut un homologue en Allemagne. Il y eut l'histoire orale, en particulier dans ses premières manifestations anglo-saxonnes, avant qu'elle ne découvrît que la construction de la même mémoire soulevait des problèmes bien plus intéressants que l'étude des souvenirs. La seconde étape du détachement par rapport aux approches de l'âge d'or fut différente. Sa préoccupation ne fut pas tant de souligner le fait que dans le tableau peint par l'histoire sociale, beaucoup étaient laissés de côté, mais bien que ce qui était laissé de côté était en fait tout ce qui importait. Que les grandes analyses, les modèles structuralistes et que les critiques anglo-saxons en vain rappellent meta-narratives ou méta-récits étaient une illusion. Ainsi, l'accent fut mis sur ces identités multiples, ces réalités complexes que les illusions des grandes analyses écrasaient. Cette critique n'exigeait pas nécessairement un intérêt pour le langage et le discours, ni le développement d'une critique postmoderne, mais elle créa un monde où la perte de confiance dans la grande histoire sociale facilita leur émergence et leur donna un pouvoir de conviction. L'historien allemand Alf Lütke, qui s'inscrit dans le mouvement de l'Alltagsgeschichte, l'histoire de la vie quotidienne, qui émergea dans les années 1980, fit une observation révélatrice sur l'application de la théorie weberienne de la bureaucratie à la Chine et à l'Europe. Il soutint que si une bureaucratie peut se comparer à l'autre en termes de structure et de résultats, cette constatation ne nous apprend rien sur sa fonction et sa signification pour les gens qui la subissent. Fin de citation. On peut opposer le commentaire de Lütke selon lequel les grandes catégories d'analyse marxiste-weberienne appartiennent de plein pied à l'optimisme bourgeois et rationaliste du XIXe siècle. Au propos d'un autre historien allemand, Jürgen Kocka, qui regrettait que, je cite, « l'anti-intellectualisme de l'Alltagsgeschichte » se fonde sur un scepticisme à l'égard de la raison. Et Kocka se déclarait avec force « Je me positionne au nom de l'Aufklärung, au nom des Lumières, contre ce courant. » Fin de citation. J'ai été récemment frappé par ce qu'écrit Adeline Domar pour la réédition en 1996 de sa thèse sur la bourgeoisie parisienne, 30 ans après la première publication. « L'inexprimé, dit-elle, tout ce qui relève de l'inconscient et de pulsions incontrôlées reste exclu de la recherche. L'histoire sociale comparative et quantitative repose sur une approche rationnelle. » Fin de citation. La position essentiellement moderniste de l'histoire sociale en son âge d'or consistait à apporter de grandes réponses à de grandes questions. Elle trouvait ses réponses de diverses manières, en s'appuyant sur les analyses théoriques weberiennes de l'histoire sociale allemande, les ambitions d'analyse structurelle des données en France ou les approches plus expérimentales de la notion de classe en Grande-Bretagne. Mais elle était convaincue que, par le recours aux données, sources, concepts et théories, le passé pouvait être compris. Ce n'est pas l'apparition d'une théorie postmoderniste qui sapa ses approches dans les 15 dernières années. En fait, ce sont les doutes qu'inspiraient ces mêmes approches et qui participaient à la perte de confiance dans les projets intellectuels modernistes qui en vinrent a été qualifié de postmodernisme et a donné naissance ensuite à une sous-structure théorique plus sophistiquée. Quelles étaient donc les inquiétudes et les incertitudes que suscitait le projet en son âge d'or? La première était une questionnement du caractère des données sur lesquelles se fondait l'analyse structurale sociale de grande échelle. Ces 20 dernières années ont été témoins d'une reconceptualisation des sources sur lesquelles l'analyse de données à grande échelle repose en histoire sociale. Les travaux de Desrosières et Thévenot en France, de Higgs et Stretter en Grande-Bretagne, nous ont aidés à comprendre, par exemple, comment les titres professionnels et les manières de les présenter sous forme de tableaux ne peuvent être perçus comme émanant de la réalité sociale elle-même, mais bien de préoccupations contemporaines. Cette insistance sur la spécificité et la construction historique de ces sources, qui passait naguère pour des certitudes à classifier et analyser, elle a orienté notre attention vers les modes par lesquels une société façonne sa propre image à travers les données qu'elle collecte et qu'elle organise. La critique des données sur lesquelles les analyses structurales sociales reposaient a servi en particulier à saper l'obsession du chercheur en histoire sociale pour les titres professionnels. Que ce soit dans les colonnes sériées des tableaux d'une thèse régionale française ou les pages d'études sur la classe ouvrière britannique, l'élément fondamental dans les analyses a été la profession de chaque individu. Peut-être est-ce parce que je suis un historien de la petite bourgeoisie, mais il me semble que l'histoire sociale doit se débarrasser de l'obsession qu'elle a pour le pouvoir illusoire du titre professionnel. Les postulats qui s'attachent à cet usage de la profession ont été remis en question. L'idée que les professions sont individuelles, alors qu'elles sont multiples. Qu'elles s'expriment dans l'intitulé que l'on donne à un fonctionnaire public qui peut fort bien choisir ce qu'il croit être la manière correcte de décrire quelqu'un. Que c'était le revenu individuel qui importait, alors que nous savons que le revenu de maisonnée est bien plus important. Que la profession représentait une identité stable, quand nous savons qu'elle changeait souvent au cours d'une vie. Et que la profession était la force dominante dans la constitution de l'identité et de la conscience. La fixation de l'histoire sociale sur la profession doit être atténuée. Si les doutes concernant les sources furent l'une des forces qui s'appelle l'assurance de l'âge d'or, une autre fut les interrogations portant sur les catégories classiques dans la discipline. Les paradigmes de l'histoire sociale dans ces années de prospérité opéraient sur l'échelle des structures, des classes, des groupes sociaux, et cette vision s'est dissoute dans les années suivantes. Alors que pendant l'âge d'or, Thompson et d'autres commençaient à se focaliser sur les détails des identités et au rôle de l'action humaine dans la construction de ces identités, les bases étaient posées d'un travail de sape des grands conseils par le biais d'un examen microscopique des caractéristiques de l'expérience. Alors que le pouvoir des paradigmes marxistes et weberiens perdait de sa force, les simples postulats associés à l'emploi de la notion de classe en vinrent à sembler être davantage une vision imposée par l'historien qu'une description des réalités vécues de la vie quotidienne. Les années récentes ont non seulement vu la construction empirique de la classe comme catégorie, avec la mise en évidence de la diversité des identités, mais aussi sa déconstruction théorique sous les coups du post-structuralisme et du postmodernisme. Ce processus de changement du paradigme peut être observé dans l'évolution des travaux sur la bourgeoisie. Dans les années 1960, l'ouvrage caractéristique était celui d'Adeline de Mars au Paris, qui définissait non seulement la bourgeoisie, mais en catégorisait les strates internes par une analyse quantitative de la richesse et des professions. Agulon avait montré en quoi les formes de sociabilité étaient cruciales au développement de la bourgeoisie, et Thompson et Agulon avaient préparé le terrain pour des approches centrées sur l'activité plus ethnographique et plus culturelle des classes en général et donc de la bourgeoisie. Avec le travail de Maurice en Grande-Bretagne et de Chaline en France, la bourgeoisie apparut alors comme un phénomène plus complexe, qui n'était pas simplement le résultat de processus économiques, mais qui devait être construit. L'étude méticuleuse de Leeds au début du XIXe siècle, faite par Maurice, explorer comment une classe moyenne divisée fondamentalement par la politique, la religion, l'activité professionnelle et la richesse, on était venu à se percevoir et à se comporter comme une seule classe sociale. Maurice plaçait l'acte associatif au cœur de la manière dont la bourgeoisie de Leeds en vint à exister, non en tant que catégorie, mais en tant que classe. La bourgeoisie de Leeds avait joué un rôle très actif dans sa propre formation. Le livre de Maurice sur Leeds, bien que publié en 1990, était issu du projet historique des années 1970 et enrichi des critiques qui avaient suivi. Pas assez enrichi, semble-t-il, pour le troisième livre que je citerai dans cette séquence, « Imagining the Middle Class », de l'historien américain Drew Warman. Ce livre détourne des structures ainsi que des relations sociales et soutient que la classe moyenne britannique se forma dans les débats qui accompagnèrent la réforme politique en Grande-Bretagne au début du 19e siècle. La classe moyenne, pour Warman, était construite dans le discours en tant que catégorie morale et politique, ce qui inventa un groupe social. Il ne voit pas dans le récit grandiose de l'essor d'une nouvelle classe une description de la société, mais une justification de la réforme politique. La classe est devenue une formation essentiellement discursive. L'étude évolutive de la bourgeoisie européenne nous présente ainsi l'évolution des paradigmes de l'histoire sociale. Les deux dernières décennies ont vu l'abandon de ce que les écrivains anglo-saxons ont appelé les grandioses récits de l'histoire sociale. Que ce soit les déterminants structuraux qui ont caractérisé les annales et les paradigmes marxistes, ou les téléologies de la théorie de la modernisation qui ont une telle influence en Allemagne et aux États-Unis. Il est intéressant que lorsque Michael Thompson en vint à structurer sa Cambridge Social History of Britain en trois volumes au début des années 1980, il décida que classe, relations sociales, sexe et conflit social figureraient uniquement sur des thèmes plus précis, alors que jadis encore ils auraient constitué l'armature de l'ouvrage. Par la fin de cette décennie, un univers social bien plus complexe des acteurs et des identités multiples apparaissait au grand jour. Nous voyons cette accentuation nouvelle sur l'hétérogénéité des relations personnelles dans le recueil d'essais publiés sous la direction de Bernard Le Petit, « Les formes de l'expérience, une autre histoire sociale ». Nancy Green, dans cet ouvrage, dit avoir recherché, je cite, « une analyse qui n'enferme pas les acteurs dans les catégories réifiées », fin de citation, « mais qui reconnaît néanmoins les structures et les contraintes qui les enserrent ». L'accent mis sur le particulier devenait dorénavant le moyen de construire la compréhension sociale. Les variables que manipule le chercheur en histoire sociale ont changé. Il est passé de variables comme la démographie, la classe, l'économie, la technologie et la géographie à un nouvel ensemble d'où l'économie et la technologie ont presque disparu, où la classe et la géographie ne sont plus que leur représentation et où les variables clés sont la culture, la représentation et les identités. L'histoire des femmes a joué un rôle crucial car, alors qu'elle a évolué vers une « gender history », c'est-à-dire une histoire de la construction sociale des identités de sexe, la tension a glissé de catégories stables, comme les hommes et les femmes, vers les identités plus fragiles et contestées liées au gender, à l'identité de sexe. Les forces conjointes du tournant linguistique et du postmodernisme ont posé un défi aux bases épistémologiques de la recherche en histoire sociale aux pays anglo-saxons. Mais le défi le plus important qui se pose à l'histoire sociale s'inscrit au cœur de ces processus. Il s'agit de la décentralisation du social en tant qu'objet d'analyse. Les identités ont remplacé les structures au cœur de la discipline. Et ces identités sont non seulement multiples, instables et fragiles, mais selon les nouvelles orthodoxies, elles ne sont construites que de manière discursive. Nous sommes loin de l'analyse des groupes sociaux, sans parler de le fondement économique. La transition vers une histoire sociale où le social avait été marginalisé ne fut pas brutale,
car les tentatives pour résoudre les problèmes que posaient les paradigmes de l'âge d'or avaient souvent eu pour effet de passer à de nouvelles manières d'apprendre la société. Le gender et l'ethnicité devinrent des champs d'études importants. Les questions d'identité constituèrent une des forces qui déstabilisèrent la conception que l'on se faisait du social et qui déstabilisèrent ainsi l'idée même de l'histoire sociale. Les préoccupations de l'Alltagsgeschichte en Allemagne et celles de la Microstoria en Italie illustrent le défi lancé à l'ambitieuse histoire sociale de son âge d'or. Le propos n'était pas de remplir les vides d'une histoire sociale concernée par d'autres choses, mais de se demander si les structures de l'économie, des classes et des sociétés analysées par cette histoire sociale avaient quelque relation avec les réalités qu'elle se proposait de décrire. L'Alltagsgeschichte recherchait une compréhension plus qualitative de l'expérience quotidienne, une compréhension atteinte par ce que Hans Medick appelait les modes ethnologiques du savoir. L'attention portée à l'expérience subjective et aux significations à un niveau micro-historique permettrait de mieux comprendre les ambiguïtés des vies et de mieux répondre aux grandes questions. De même, on trouve dans la Microstoria italienne une présentation d'une méthodologie et d'une épistémologie alternative. Au tout début du mouvement, Ginsburg et Pony demandèrent que l'histoire en Italie s'affranchisse davantage par rapport aux annales, pour se centrer sur l'histoire ethnographique de la vie quotidienne. Grâce à un groupe d'historiens réunis autour de la revue Quaderni Storici dans les années 1980, la Microstoria apparut pour redéfinir une compréhension des phénomènes sociaux du passé par la reconstruction de trajectoires et de relations individuelles et de petits groupes. Le désir de fonder une histoire sociale ambitieuse demeura. Mais était-il réaliste? Pour reprendre le mot du rédacteur des Annales, est-il possible de penser le macro par le micro? Le thème micro-histoire a cependant perdu la précision de ses origines italiennes et on est venu à renvoyer à la fragmentation de l'histoire sociale en études à petite échelle, la localité ou le voisinage, l'épisode spécifique, l'individu. Lorsque Christoph Schall écrivit qu'il voulait intégrer les découvertes de la micro-histoire sociale, il ne faisait pas référence à la spécificité épistémologique de la micro-storia, mais à la masse d'études particulières qui pouvait permettre de construire une histoire sociale plus nuancée. Comme l'histoire sociale a évolué, il y a eu un changement de conception de la façon dont la réalité sociale pouvait être appréhendée par l'historien. Un changement d'équilibre entre l'appréhension de la réalité sociale par l'étude de structures et d'agrégats sociaux de grande échelle, d'une part, et son appréhension par l'étude des stratégies des acteurs individuels, d'autre part. À ces deux conceptions, il faut en ajouter une troisième, qui consiste à nier toute possibilité de la reconstruction de la réalité sociale du passé, qui n'a pas d'existence indépendante des discours qui la construisent. Selon les mots de l'historien anglais James Vernon, il faut parvenir à une conceptualisation du social comme construction discursive. Le travail de sape du grand projet moderniste qu'était l'histoire sociale a été une œuvre d'une grande hétérogénéité. La discipline a éclaté en une myriade de sous-disciplines, caractérisées chacune par ses propres spécialistes. Ce n'est pas chose nouvelle. L'histoire du mouvement social, et en particulier l'histoire urbaine, furent en Grande-Bretagne les terrains de recherche d'une grande partie de l'histoire sociale à ses débuts. Depuis, l'histoire du mouvement social et l'histoire urbaine, de nombreuses autres histoires sont apparues. Histoire rurale, histoire des femmes, gender history, histoire orale, histoire culturelle, histoire démographique, histoire de la famille, histoire sociale de la médecine. La liste n'est pas close. Peu de ces histoires sont nouvelles, mais elles se considéraient auparavant comme partie intégrante d'un projet d'histoire sociale. À présent, le projet a disparu, et avec lui la force analytique du social permettant de les lier ensemble. La professionnalisation de l'activité de recherche s'est retrouvée confrontée à la dissolution des grandes ambitions de l'histoire sociale. Cela a provoqué la fragmentation de la discipline. Noiriel a fait remonter cela à l'ambition même qui présida à l'essor de l'histoire sociale et a soutenu que, je cite, « l'idée que tout est social en histoire a abouti à une atomisation complète de ce champ de recherche, car sous cette bannière sont rassemblés aujourd'hui des courants qui n'ont plus rien à voir entre eux et des chercheurs qui ne parviennent même plus à se comprendre. » Fin de citation. La catégorie du social elle-même se trouve dissoute et il ne reste rien qu'une histoire en miettes. Les diverses tendances actuelles en histoire sociale que je viens d'esquisser n'ont peut-être pas grand-chose en commun, sinon le fait d'illustrer une chute du haut de sommet enivrant des années 1960 et 70. Il suffit de jeter un regard à l'éditorial du tout premier numéro de la revue britannique Social History en 1976, texte enthousiaste et fourmillant d'idées, célébrant la portée et l'éclectisme de cette matière et rêvant d'une histoire sociale qui serait bien plus qu'une simple sous-discipline. Puis-je le comparer à l'éditorial du 50e numéro de la même revue en 1992, où une présentation défensive évite toute tonalité de manifeste et même toute tentative d'évaluation du progrès de la discipline. Bel exemple d'éditorial incertain pour les temps d'incertitude. Ce que j'ai appelé perte de confiance est peut-être plus exactement une perte de confiance en une vision particulière de l'histoire sociale. Une histoire sociale inscrite dans une époque différente, où idées nouvelles, sciences sociales, attaques contre les anciennes orthodoxies, croissance économique, tout portait à une ambition particulière. Il est clair que nous ne pouvons pas imaginer un retour à cette vision de l'histoire sociale, pas plus que nous ne pouvons imaginer un retour au cadre culturel, politique ou idéologique où elle s'est développée. Bien sûr, nous pouvons regretter certains aspects de ce que nous avons perdu. La capacité d'enraciner l'analyse sociale dans l'économique, par exemple, ainsi que la possibilité d'explorer les structures des relations sociales. Mais nous pouvons aussi célébrer bien des choses que nous avons apprises, ainsi combien notre appréhension des sociétés passées est devenue plus sensible aux matériaux grâce auxquels nous découvrons ces sociétés, leur représentation d'elles-mêmes, la construction et la reconstruction des identités, et le défi que pose la micro-analyse à notre conceptualisation de la macro-analyse. Les disciplines ne demeurent pas inertes. Ce qu'il faut à présent, c'est la capacité de reconstruire des relations. Selon le mot de Daniel Roche, au colloque de la rue d'Ulm, il y a une douzaine d'années, ce qui définit le pouvoir du social comme forme d'investigation historique, c'est qu'il est, je cite, une mise en relation, une mise en relation. Il est plus difficile d'insister sur cet aspect en Grande-Bretagne, où le questionnement épistémologique des catégories de l'ancienne histoire sociale se pose de manière unidimensionnelle. Elle ne concerne que la construction discursive du passé, et dans la mesure où elle acquiert une position dominante, elle ruine toute possibilité de développement de ces mises en relation. L'histoire sociale a un don redoutable pour le nombrilisme. Récemment, nous avons vu le colloque de la rue d'Ulm en 1989, le tournant critique des annales la même année, le débat concernant le tournant linguistique et une multitude de publications. Tandis que colloques, revues et livres ont démontré en France une réelle capacité d'analyse, le débat parallèle en Grande-Bretagne s'est réduit à une dispute acerbe sur le postmodernisme, un conflit manichéen qui a paralysé le débat sur l'histoire sociale. Simona Cerutti, contemplant de Paris le spectacle donné outre-Manche, a relevé, je cite, « l'extraordinaire violence du temps avec lequel les protagonistes s'apostrophent et qualifient la position des adversaires ». Fin de citation. L'histoire sociale serait-elle donc en mutation, d'où elle devrait un jour sortir stabilisée? A-t-elle un avenir? Antoine Pro a écrit avec prescience en 1992 que l'histoire sociale est une construction historique. Elle a eu un commencement et il se peut qu'elle ait une fin. Fin de citation. Nous ne pouvons pas reconstruire une ancienne histoire sociale, ni sa problématique ou ses méthodes. Quel que soit notre scepticisme concernant certaines tendances historiques et épistémologiques actuelles, nous avons perdu l'innocence de l'âge d'or moderniste de l'histoire sociale, perdu notre foi candide dans nos catégories, nos données, notre lecture, nos structures analytiques. L'histoire sociale, au sens large, demeure très populaire et même féconde. Cependant, comme elle se fragmente en ses éléments constitutifs, comme elle sape la base conceptuelle de recherche dans le passé, comme elle renonce aux méta-récits et aux grandes ambitions, comme elle dissout le concept même de social, nombreux sont ceux qui se seraient jadis définis comme chercheurs en histoire sociale et qui aujourd'hui ne considèrent plus qu'ils travaillent dans le cadre d'une discipline unitaire. Dans un discours célèbre, Léon Blum, s'adressant à ses camarades sur le point de quitter la SFIO au congrès de Tours en 1920, leur dit « Pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. » Fin de citation. Reste-t-il aujourd'hui quelqu'un pour garder la vieille maison de l'histoire sociale? Ou devrions-nous jeter un regard en arrière, empreint d'amour et de nostalgie, fermer la porte et rêver à de nouvelles demeures. Je vous remercie.
Et je voudrais vous poser une question quand même. Lorsque le travail lui-même, qui est le fondement de toute histoire comment se fait-il que vous vous interrogiez comme si cette notion de travail, cette délocalisation, cette mondialisation n'était pas intervenue, parce qu'on a l'impression que vous regrettez que votre discipline soit un peu en train d'expirer quelque part, je ne sais pas, alors que c'est sa base qui expire. Ce n'est pas tellement votre discipline. Donc, jamais vous ne parlez de la base de cette discipline, ça, qui est en complet bouleversement.
Sa base dans quel sens? Sa base des sources pour la recherche ou...
Non, c'est-à-dire que le travail qui, disons, est analysé dans votre discipline. Tout le travail tel qu'il s'est déroulé au 19e siècle et jusqu'à ces dernières années encore, jusque vers les années 50-60, et il n'existe plus en tant que tel, et surtout en Angleterre, par exemple, mais dans le monde entier, je crois. Donc, comment la discipline qui rendait compte d'une situation précédente peut-elle avoir des nostalgies par rapport à la discipline et pas par rapport à la réalité qu'elle était en train d'analyser ou de dire?
Je crois que vous avez raison dans un certain aspect, c'est-à-dire la nostalgie pour la discipline et une nostalgie pour un âge qui a passé, un âge différent qu'on voudrait peut-être retrouver, spécialement les gens de mon âge. Mais quand même, je crois que pendant toute l'histoire de l'histoire sociale, les sociétés et le monde sur le plan global a changé. Depuis, j'ai cité Michelet, j'ai cité Macaulay au milieu du 19e siècle, qui ont insisté sur l'importance d'une certaine approche à l'histoire. Depuis le milieu du 19e siècle et les années 1970 et 80 de ce siècle, il y a un changement énorme sur le plan national, économique, social, et aussi la globalisation a commencé. Mais quand même, on peut voir le développement des stratégies d'analyse du passé sur le plan social qui se façonnaient dans une façon qui se ressemble. C'est-à-dire, ce n'était pas impossible de voir une discipline en développement. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, le défi épistémologique spécialement a refusé d'accepter le concept du social. Et avec ça, on a vu un changement énorme dans le sujet. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a, il y a toujours des générations qui regrettent le passé et qui regrettent le changement. Mais je crois qu'on peut voir une coupure, une rupture importante dans les années 90 qu'on n'avait pas vu jadis. Oui, c'est ça.
Oui, bonjour monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il faut absolument trouver un moyen pour lutter contre le déclin de la science que vous protégez, et vous avez raison. Moi, je pense à une chose. On a étudié les technosciences, et dans le cadre de cette étude ici, on avait vu que l'école de Francfort, elle dit quoi? Elle dit que les technosciences doivent être mises au service de l'humanité. Est-ce que ça ne serait pas un moyen de lutter contre le déclin dont vous avez dit que vous avez peur? Moi aussi, j'ai peur de ce déclin.
C'est une bonne question et je crois que je n'ai pas une bonne réponse. C'est-à-dire, je connais quelques travaux de l'école de Francfort, spécialement l'école mais je ne suis pas spécialiste. Donc, je trouvais difficile de dire si l'école de Francfort a la possibilité de sauver, de sauvegarder l'histoire sociale de ces menaces. Mais je dirais, par ce que je connais de l'école de Francfort, ce qui est important est d'avoir une analyse épistémologique et théorique de la société, des pensées, de l'idéologie, qui se base sur une conceptualisation de la réalité sociale. Et je crois que ce qui a changé dans les années récentes, c'est l'abandon de ce lien entre l'analyse de théorie, d'idéologie et de conceptualisation de la société qu'on voit dans l'école de Francfort, mais dans les autres écoles épistémologiques, et sociologiques et philosophiques aussi. Et maintenant, on a une rupture, c'est-à-dire ces analyses postmodernes n'acceptent pas des liens entre l'euthérisation et la société qu'elle analyse. Et ça, c'est le problème pour moi. Mais je ne suis pas expert sur l'école de Francfort. Mais si. Oui, plus non plus.
Mon problème est un peu général et je ne sais pas si...
Je suis là.
Ah oui, merci.
Excusez-moi. Donc, nous abordons depuis quelques semaines des sciences dites humaines. Je suis frappé par leur diversité et je me demande si à force de fragmenter, de segmenter l'homme, comme on est en train de fragmenter son ADN, qui est sa substance même, on ne finira pas par le détruire. Il y a une vieille notion que j'ai apprise il y a quelques dizaines d'années sur les bancs de l'école, qui s'appelait l'humanisme. Je ne sais pas si ce mot a encore un sens, peut-être pourrez-vous me répondre. Je crains qu'à l'aube du XXIe siècle, on aille vers quelque chose dans lequel les hommes de demain, face à des nouvelles technologies, notamment les technologies de l'image, je pense à des technologies liées à l'Internet notamment, ne vont pas faire que nous allons tous finir par être, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, complètement perdu ou paumé. Merci.
Non, merci. Je crois que je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Oui, il y a toujours un problème pour les spécialistes dans une discipline, même une discipline à l'intérieur des sciences humaines, qu'on travaille avec des approches, avec des méthodologies, avec l'épistémologie, avec les traditions de sa propre discipline. Et donc, c'est difficile de jeter un regard, de regarder les autres disciplines pour voir si on pourrait les rassembler, si on pourrait intégrer les approches des différentes disciplines. La raison, l'explication, c'est les explications sociologiques et professionnelles. C'est-à-dire, pour les carrières professionnelles, il faut être spécialiste et pas généraliste. Et ça, c'est un problème que notre société a créé depuis longtemps, mais ça existe dans les universités, parmi les chercheurs et tout ça. Donc, les sciences humaines sont fragmentées pour les raisons hétérogènes. Mais Est-ce que cette fragmentation des sciences de l'homme, est-ce qu'il a mené à une segmentation de l'homme? Je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est essentiel, c'est peut-être pas le concept de l'humanisme, parce que l'humanisme, pour moi, c'est un bon concept, mais c'est difficile de créer un plan d'action autour du concept d'humanisme. Je crois que l'essentiel, pour moi, c'est de tenter aux universités, maintenant nous vivons dans une époque où la majorité de la population, la majorité des jeunes est formée dans l'université. Donc je crois que ce qui est essentiel est de faire les liens. Je retrouve le terme de Daniel Roche, qu'il a utilisé pour l'histoire sociale, mais je pourrais l'utiliser pour les sciences humaines, c'est-à-dire de faire le lien entre les disciplines, de comprendre comment ces analyses de l'homme, des différentes approches aux sciences de l'homme, se focalisent sur le même homme, le même concept, la même réalité. Et c'est une question de formation et d'éducation, je crois, et je regrette que la spécialisation qui a fragmenté les sciences humaines pour les chercheurs et les professeurs à poser les mêmes problèmes pour les étudiants, plus dans les universités françaises, à mon avis, qu'en Grande-Bretagne. Mais le problème est important dans les deux. Je crois que c'est une question de formation et d'éducation, de faire le lien entre les sciences humaines. Parce que, oui, il y a un danger de fragmenter, de segmenter l'homme et le sujet.
Est-ce que vous ne pensez pas que repérer les liens n'est pas faire une synthèse? Ce que craignait monsieur tout à l'heure, c'est que l'homme, enfin le concept de l'homme, est disparu par cet émiettement des diverses sciences humaines. Mais je crois simplement que cette diversité montre la complexité de ce qu'est l'homme, et au contraire, autrefois, sous prétexte d'humanité, d'humanisation, on ait perçu l'homme comme quelque chose qui soit identique pour tous les hommes. Or, les hommes, ce que révèlent ces sciences en particulier, c'est que les hommes sont très différents.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que ce qu'on ne doit pas chercher est une synthèse, c'est-à-dire une tentative de créer une compréhension assez statique d'une chose qui est l'humanité. Je crois que, comme je disais vers la fin de ma conférence, je crois que nous avons appris beaucoup des approches postmodernes, spécialement la capacité de reconnaître que les identités d'un homme, d'une femme, d'un groupe est fragile, est multiple. On n'a pas une identité, on en a beaucoup. Que ces identités peuvent changer. Qu'ils sont fragiles, en conflit, même en conflit à l'intérieur de chaque personne. Donc je crois que cette complexité est quelque chose que nous avons appris dans les 20 dernières années, et on ne doit pas le perdre. Et le danger, c'est que si on cherche une synthèse, on va perdre la complexité. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Alors, je voudrais non pas vous interroger sur la théorie qui me paraît d'une complexité dont on vient d'entendre les effets, mais sur le moyen, le support, le médium. Par exemple, il y a eu la période où Ronald Blight a fait ses écrits et il a fait des émules. Ensuite, nous avons maintenant Ken Loach qui utilise la caméra et qui fera aussi, qui fait déjà des émules et qui fera probablement école. Je voudrais savoir si pour vous le moyen du documentaire, l'écriture par l'image, peut être peut-être pas une solution, mais une forme transversale, un apport, quelque chose. Je voudrais connaître votre opinion à ce sujet. Merci.
Ça, c'est une bonne question. Je crois que chaque génération des historiens ont regretté les changements dans la vie quotidienne, la technologie, qui a détruit ou menacé la capacité de faire la recherche. Les historiens au début du 20e siècle ont regretté le téléphone. parce que les choses autrement communiquées en écriture étaient perdues dans le ether, je ne sais pas. Et je crois que l'ordinateur a posé beaucoup de problèmes pareils, et le courrier électronique aussi. Maintenant, la plupart de mes communications à l'intérieur de mon université et aussi avec des collègues dans des autres universités et même avec mon fils qui n'habite plus chez nous, sont faits par courrier électronique. Donc, une grande masse de documents vont disparaître. Mais il y a un autre aspect de la technologie, c'est-à-dire la capacité de communiquer, de diffuser pendant tout le monde les documents, les images de documents sur l'Internet, sur le web et tout ça. On avait pensé il y a 20 ans que le microfilm était super, mais maintenant tout a changé avec l'Internet et le web. Mais je crois que ça va changer la discipline, ça va changer la recherche. Je regrette les changements parce que comme quelqu'un pour qui l'histoire est vraiment un métier, j'aime beaucoup d'avoir les mains sales à la fin d'une journée dans les archives. Ça, c'est la nécessité de laver la main toutes les deux heures. Ça, c'est quelque chose de métier. Mais je crois qu'il y aura beaucoup de changements très, très importants en ce qui concerne la diffusion des documents. Mais il y a un danger, un grand danger. On l'a vu parmi les étudiants, même les étudiants de doctorat, mais spécialement des étudiants de premier et deuxième cycle. C'est-à-dire qu'ils trouvent les documents sur le web, parce qu'il y a spécialement les documents américains sont tellement nombreux disponibles sur le web. Et on ne demande pas des questions qu'un historien doit poser à ce document. Où est-ce que je l'ai trouvé? Dans quelle boîte? Avec quel autre document? Qui l'a produit? Pour quelle raison? Ces interrogations ont disparu. On trouve un document sur le web, c'est la vérité. C'est un document. Et je crois que la diffusion des documents, la manière de faire l'histoire, a changé, a démocratisé, je crois aussi, mais il y a un danger d'accepter toutes les images des documents comme égales, toutes les images comme des documents d'une vérité égale. Et ça, c'est un problème pour les étudiants, je crois, et je l'ai vu dans le papier et leur recherche. Mais quand même, il va continuer de changer, mais comme je vous ai dit, je regrette le fait que c'est possible d'être historien maintenant sans les mains sales.